Solange Kaké, chanteuse, comédienne, mère de famille, femme du monde, née au Cameroun, vivant à Paris et faisant pas mal d'allers-retours.
Sandra Nkake est franco-camerounaise. Élevée par une grand-mère bretonne, elle s'est construite avec la culture africaine et française. Comédienne mais surtout chanteuse, elle a sorti son premier album « Mansa Adi » en octobre 2008. Avec elle, nous allons parler racines, racisme et clichés. On s'apercevra que le racisme, vous savez, les petites phrases anodines et parfois blessantes, peut venir aussi des personnes de couleur noire. La bêtise, qui n'a ni frontières ni couleurs, dit-elle, est unanimement partagée. Voici un entretien avec Sandra Nkake près d'une fontaine dans le jardin de son hôtel, peu avant son concert à Nîmes. All this rotten rancor's inside are feeding your dark side. Disenchanted sun. On va essayer de faire un portrait de vous, parce que vous avez fait des allers-retours entre Yaoundé et Paris, donc entre la France et le Cameroun. Alors, est-ce qu'on peut parler de vos premiers temps dans la vie ?
Eh bien, mes premiers temps dans la vie étaient, on va dire, assez doux, parce que j'étais élevée par ma mère et que c'était quelqu'un de très douce, et que j'ai un peu vécu au gré de ces changements d'emploi du temps et donc de territoire. Moi, je pense que le premier souvenir que j'ai, c'est quand même un souvenir de Yaoundé, de grosses chaleurs, et puis aussi de début de difficultés, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe dans le foyer et ce qui se passe juste quand on passe la porte. Ma grand-mère est bretonne, et donc j'ai une grand-mère blanche et un grand-papa noir, et j'ai vécu en partie avec eux qui m'ont élevé. Et c'est vrai que ce qui se passait à la maison, c'était plutôt des échanges, du dialogue et de l'ouverture. Et dès que j'ai passé la porte, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on me renvoyait régulièrement le fait que j'étais blanche, alors que moi, je ne me voyais ni noire ni blanche, je me voyais moi. Mais le fait d'avoir une grand-mère blanche rendait les choses compliquées. Et que mon premier souvenir de voyage, c'était un Yaoundé Paris, en voyage accompagné avec la petite sacoche autour du cou. Et arrivé à Paris par moins 10 à l'époque, beaucoup de neige, du vent et ma chevelure afro qui était remplie de neige, et que arrivé en classe on se moquait de moi, et que là j'ai vécu la difficulté mais dans un autre sens, c'est-à-dire qu'effectivement on me renvoyait l'image de quelqu'un de pas cultivé, pas développé, assez proche du singe. Et quand je rentrais à la maison, j'essayais de comprendre en fait comment c'était possible, en étant la même personne, en n'ayant rien changé, je pouvais avoir des réactions en face de moi qui étaient en fait assez équivalentes. C'est la même violence, la même non-connaissance, la même agressivité, et comment faire pour vivre avec ça et pour ne pas renvoyer de la bêtise en face. Et je pense que j'ai eu de la chance d'avoir des parents, on va dire, assez ouverts, qui m'ont fait comprendre qu'il y a beaucoup de souffrances de part et d'autre, et qu'à ça, il faut répondre par beaucoup de calme et autant que possible de dialogue. Mais c'est vrai que toutes les situations ne prêtent pas au dialogue, parce que j'ai aussi eu pas mal d'agressions verbales et physiques, mais pas forcément par des blancs, c'était souvent par des noirs aussi. On n'a pas l'apanage de l'intelligence et de l'ouverture, ni son privilège. Mais voilà, j'essaye d'être le plus ouvert possible et de me dire que j'ai effectivement de la chance d'être dans une famille où on a une grande ouverture sur la culture, qu'elle soit afro-américaine, africaine, européenne, sud-américaine, et notamment via la musique. Via la musique, mais via la peinture aussi, et puis via les voyages, j'ai eu la chance de pouvoir aller un peu partout dans le monde. Donc c'est vrai que tout d'un coup, ça replace, on va dire, un peu plus loin dans l'univers. Moi, je ne me sens pas que parisienne ou que camerounaise, je me sens vraiment citoyenne du monde. Et le fait de faire de la musique, enfin en tout cas d'être sur scène, ça me donne une plus grande appréhension des douleurs des autres. N'ayant jamais eu, en tout cas, le besoin d'avoir à revendiquer quelque appartenance que ce soit, si ce n'est au moment où on a un départ prématuré dans la famille ou un problème de papier. Tout d'un coup, il y a toutes ces racines-là qui sont qui ressortent de manière assez violente et des choix qui doivent se faire. Donc aujourd'hui, je suis parfois obligée de faire le choix de dire effectivement oui, je suis camerounaise parce que, ou en tout cas africaine, parce que c'est ce qu'on va me renvoyer. Moi, je me sens assez parigote d'une manière, ne serait-ce que mon accent et ma manière de me mouvoir ou le rythme de ma parole, mon débit. Mais en même temps, en partant au Cameroun il n'y a pas très longtemps pour enterrer ma mère, j'ai senti que j'étais pas si parisienne que ça. J'ai quand même des grands restes, même si je ne parle pas de langue camerounaise parce qu'on n'en a pas enseigné, je suis quand même très, très camerounaise.
Vous dites que vous vous sentez camerounaise, malgré le fait que vous ne connaissiez pas la langue. Alors ça vient d'où, cette reconnaissance des racines?
Dans ma manière de réagir, par exemple, il n'y a pas très longtemps, voilà, à l'école de mes enfants, on passe devant une restauration rapide, parce que j'aime pas donner la marque. Et devant, il y a un jeune homme qu'on croise depuis maintenant 3 ans, et qui vit dans la rue, dort dans la rue, mange dans la rue. Donc de temps en temps, il m'en dit, ça ne le rend pas très fier, mais voilà. Et un jour, il s'est mis à me sourire, donc j'ai rendu ses sourires, et puis à me dire bonjour. Donc j'ai rendu ses bonjours avec un grand étonnement de mes enfants, qui me demandait pourquoi je lui parlais. Je dis, mais c'est pas parce qu'il est dans une situation de précarité que c'est moins qu'un animal. C'est une personne qui me parle, qui me respecte, et je pense que je lui dois le respect. Ça se passe à ce niveau-là, au niveau du partage de ce que j'ai. Parce que c'est comme ça que j'ai été élevée, et que dans ma famille, il n'y a pas moyen que quelqu'un dorme dans la rue. Si je le connais, ou s'il connaît quelqu'un que je connais, on va forcément se débrouiller, que ça prenne 10 minutes ou 2 heures. On prend tous nos téléphones, on ouvre tous nos porte-monnaies pour voir comment c'est possible que... Voilà, c'est une manière d'être solidaire et on n'en tire aucune gloire. C'est comme ça qu'on est constitué et qu'on a envie de fonctionner et que c'est ce qu'on a envie de transmettre.
Donc ça veut dire, là, pour ce cas précis, que ce sentiment de solidarité, ce serait les racines camerounaises plus que les racines européennes?
J'ai l'impression, ouais. Après, c'est peut-être un peu biaisé parce que, vu que j'ai été élevée en partie par ma grand-mère, Represent Fouenon, ce serait difficile. Ça pourrait vouloir dire que en Europe, on n'est pas accueillant. Non, je pense que c'est une autre manière d'accueillir et puis de vivre des étapes difficiles. On a un autre rapport à la mort et aux morts notamment. C'est pas un moment de la vie qui me fait peur. Et je l'ai même vu dans la réaction de mes enfants face à la mort de ma maman. Ma fille est immédiatement montée dans sa chambre, elle a écrit un texte. Et elle voulait que je lise ce texte à l'enterrement de ma mère. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. J'étais moi-même surprise de sa réaction. Et en fait, voilà, il y a des choses qui se transmettent aussi bien malgré nous. Au-delà de ce qui est conscient et intellectualisable. Allant au Cameroun, il n'y a pas très longtemps, dans le village de mon grand-père, où je n'avais jamais été, j'ai été accueillie avec grand sourire, des bras grands ouverts, des personnes qui ne me connaissaient pas, mais sachant que j'étais la petite fille d'eux, tout d'un coup, c'était comme une évidence, c'est comme si elles attendaient que j'arrive. Et à un moment donné, donc j'étais dans le centre du village, et j'ai eu envie de ramasser des pierres, des cailloux, des feuilles. Et il y a mon arrière-grand-tante qui a maintenant 98 ans. Elle m'a prise dans ses bras, elle m'a serré, puis elle s'est mise à pleurer. Et donc j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui me traduisait ce qu'elle disait. Et en fait, elle était surprise et en même temps pas surprise que je fasse ces gestes-là, que je n'avais jamais vu faire, mais qui m'ont semblé importants. Il fallait que je ramène de la terre à la maison, parce que j'étais partie là-bas sans mes enfants. Voilà, j'ai pas réfléchi, j'étais pas du tout conscient. Mais elle était contente, elle était fière que je fasse ces gestes-là. Ça m'a rassurée quant au fait qu'effectivement, même si je vis depuis très longtemps à Paris, je ne suis pas une étrangère dans mon pays. Il ne faut pas que j'aie peur de me sentir étrangère. Je pense que si je me sens étrangère, je vais forcément avoir des comportements qui vont faire qu'on va sentir que je suis étrangère. Yeah.
que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres.
Juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des phrases un peu mesquines, racistes de la part des personnes que vous rencontriez. Vous avez dit quelque chose qu'on ne dit pas forcément d'ailleurs, que parfois il y avait des personnes de couleur, noires de peau comme vous qui...
La connerie a ça d'extraordinaire, c'est que c'est une des puissances les plus universelles, les plus démocratiques, et que c'est pas parce qu'on est noir qu'on est intelligent et généreux. Il se trouve que le père de mes enfants est blanc, donc j'ai des enfants mélangés. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais garde du Nord. Et j'ai entendu « Regardez où va la France, avec des gens qui se mélangent !» Et c'était une femme noire, très, très, beaucoup plus foncée que moi, par exemple, qui, je pense, était... Je ne sais pas si elle était martiniquaise ou guadeloupéenne, je ne sais pas. Mais qui était outrée que moi, noire, j'ai eu l'audace de faire des enfants avec un blanc. Et je me suis énervée tout de suite. Et c'est ma fille qui m'a retenue, en fait. Elle m'a dit, non, calme-toi, calme-toi. Et quand on est sorti du métro, elle me dit, mais pourquoi elle a dit ça, la dame? Je dis, écoute, sincèrement, je ne sais pas. Mais elle est bien la preuve que le racisme n'a pas de couleur, la bêtise n'a pas de couleur. Moi, je ne me vois pas noire, je n'ai pas vu mon homme comme quelqu'un de blanc. Je l'ai vu comme quelqu'un avec qui j'avais envie de faire des enfants. Et il se trouve qu'effectivement, il était blanc. Mais ça m'est arrivé quelques fois, notamment par le biais des enfants. C'est très drôle. Certains hommes aussi qui disent oui, sista, donc ça veut dire sœur. Sista, pourquoi tu es allée avec un blanc? Ce à quoi je réponds, ce n'est pas parce que tu es noir que tu es mon frère et que forcément j'aurais envie d'être avec toi. Tu es la preuve vivante que je n'aurais pas pu être avec quelqu'un comme toi parce que tu es bête. Encore plus dans la musique, certains pensent que la musique qui groove, qui a du rythme, n'appartient qu'aux noirs, ce qui est complètement abscon. Mais on a encore beaucoup d'œillères et beaucoup de toiles d'araignée à enlever. Et encore une fois, ça ne passe que par un, à mon sens, que par un message non pas niais ni enfantin, mais vraiment basiquement généreux, positif et souriant. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut réussir à faire passer un message.
Quel cliché on a pu vous sortir, ceux qui vous semblaient les plus invraisemblables, concernant justement tout le temps cette couleur de peau, même si vous avez dit quelque chose de très très intéressant, c'est-à-dire moi je me sens pas noir. Effectivement, on a toujours l'impression qu'en voyant quelqu'un qui a une couleur de peau noire, il se sent noir tout le temps, mais en fait non, pas tant que ça.
Moi j'ai envie de dire que nous sommes tous des hommes et des femmes de couleur. Après, il y a des teintes différentes, mais nous avons le même cœur, le même nombre de connexions de synapses. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une soirée et je me suis aperçu que j'étais la seule noire au bout de quelques temps. Mais c'est simplement parce que je sentais que, notamment les hommes, me regardaient avec une espèce de... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça... à la fois la force du fantasme, une espèce de projection sur une sexualité débridée que pourrait avoir... mes congénères et moi, que nous pourrions avoir, un certain sens du rythme. Mais surtout, il m'a dit qu'il était très très fasciné par l'Afrique. Il a pris ma main comme ça, il l'a serré fort et puis il ne la lâchait pas. Il m'a dit « J'ai toujours été fasciné par l'Afrique ». Je dis « Oui, ben, j'en suis très ravi ». Et il me raconte une anecdote d'un jeune Africain qui est arrivé à Paris dans les années 60. Et il me dit « Vous savez, comme c'est difficile pour les Africains de s'intégrer en France. Donc il a vécu de vols et autres rapines. Et il s'est retrouvé rapidement en prison. Et donc en prison, il a appris à lire. Il s'est cultivé. Et vous savez quoi ? Il est devenu un des plus grands chercheurs de la NASA. Un Africain, mais vous vous rendez compte ? Rien que ce genre de discours, ça paraît anodin, ça paraît pas du tout méchant, mais pour moi c'est très très violent. C'est presque plus violent que de dire qu'on a une odeur forte, qu'on a le sens du rythme, qu'on a une sexualité débridée, qu'on est bon pour le sport et autres clichés qui sont là depuis très très longtemps. Pareil, quand j'ai dû refaire mes papiers et que je suis allée au tribunal d'instance, et que tout d'un coup j'ai découvert à 22 ans qu'il fallait que je prouve que je n'avais pas renoncé à ma nationalité, tout d'un coup j'ai vu que mes papiers faisaient un trajet assez intéressant. le trajet du commerce triangulaire, tout simplement. Paris-Nantes, Nantes-Douala, Douala-Nantes, Nantes-Paris. Alors que j'avais ma carte d'électeur, donc j'étais française, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup, beaucoup de clichés, mais qui sont souvent aussi perpétués par mes amis et collègues et congénères de même pigmentation. Notamment aussi dans le métier d'acteur où on aimerait réussir à sortir des clichés, mais c'est vrai que on va nous demander non pas d'être des acteurs, mais d'être des acteurs noirs. Ça veut dire correspondre à un scénario et à ce qu'on attend d'un noir. Ça veut dire qu'il rigole beaucoup, qu'il soit sympa, jovial, ou alors très violent, ou marabouteur. C'est un peu con, mais c'est comme Will Smith qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, quand il avait dû préparer son rôle pour Ali. Il a été choqué par sa propre bêtise, il l'a dit, en arrivant, je ne sais plus où il était, je crois que c'était à Kinshasa qu'il avait atterri, ou à Nairobi. Il était étonné de voir des femmes noires conduire des voitures. Il était étonné que sur le tarmac, il y ait des voitures. Il s'attendait à voir des girafes, des guépards, des éléphants. J'ai dit, mais non. Nous avons la même générosité, la même bêtise aussi, le même besoin de faire du commerce, d'instrumentaliser les autres. Je viens d'un pays où il y a une grande, grande majorité de personnes qui vivent dans l'indigence, dans la non-alphabétisation, dans la violence, alors qu'une minorité s'en met plein les poches. Et ça, on n'a pas forcément envie de l'entendre, on n'a pas forcément envie de le dire. Et tout ça avec évidemment le soutien des puissances internationales.
Bon village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme.
Vous chantez essentiellement en anglais. En revanche, vous vous êtes emparé du répertoire de Georges Brassens, soit pas du répertoire, mais au moins d'une chanson de Georges Brassens, c'est La mauvaise réputation. On a même l'impression que c'est un rapport avec tout ce dont on a parlé pendant cet entretien. C'était important de reprendre cette chanson, La mauvaise réputation de Brassens.
Oui, c'est important parce que c'est une chanson que j'ai écoutée toute petite, puisque maman écoutait beaucoup de musique, et notamment Brassens, Ferré, Brel. J'ai trouvé beaucoup de résonance dedans, bien que ce soit écrit par un homme, il y a très longtemps. On aimerait que je sois dans une certaine case, ou dans plusieurs cases, et en fait, je ne rentre pas dans les cases. Et je ne fais pas exprès. J'ai pas décidé d'avoir une voix grave, j'ai pas décidé de faire une musique qui me passe par les oreilles et dont je ne sais pas si c'est un mélange de soul, de funk, parfois d'électro. Ça dépend des moments, ça dépend de l'humeur. Je suis quelqu'un qui essaye de cultiver la sincérité au plus profond et au plus précis. Et la mauvaise réputation, c'est imposée d'elle-même, en fait. C'est parti d'une rythmique que j'avais sur ma petite boîte, qui s'appelle un RC50, où je fais des loops de ma voix.
Des boucles.
Des boucles, oui, pardon, de ma voix. Et tout de suite, j'ai senti le besoin et de chanter en français et ce texte-là. Parce que je trouvais qu'on manquait de textes puissants, simples et déroulés comme des petites scénettes dans lesquelles il n'y ait aucune agressivité pour que chacun puisse se reconnaître dedans. Je pense qu'effectivement, c'est un texte qui pourra chanter dans 200 ans. Et c'est important aussi parce que ça m'a permis, et je crois qu'on a tous besoin de se mettre des petits coups de pied au derrière. Ça m'a permis de m'accepter aussi comme je suis.
Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet.
C'était un entretien avec la chanteuse et comédienne Sandra Nkake. Retrouvez des infos, écoutez d'autres extraits de ses musiques sur www.sandrankake.com. Nkake, c'est Nkake.
Je ne ferai pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime. Non, les bras, j'en aime pas que.